Alors la dernière fois, je vous ai donné un petit peu une vue d'ensemble des exigences du mystère de la grâce et comment, de fait, ce mystère de la grâce donne une vision particulière de la théologie. Autrement dit, c'est le problème fondamental de toute théologie, les rapports de l'homme et de Dieu. Et alors, dès qu'on est en face de la grâce, il y a forcément l'homme qui reçoit la grâce, l'homme qui est transformé par la grâce et qui peut vivre alors le mystère de Dieu. Alors, je ne reviens pas là-dessus. C'est quelque chose d'important. Je vous ai dit d'essayer de regarder, n'hésitez pas de regarder là le dictionnaire de théologie sur la grâce. C'est développé d'une façon intéressante et c'est important d'avoir cette vision de ces diverses positions. On reviendra à l'évangile, je ne vais pas faire maintenant ce qu'on fait habituellement dans un cours, si on avait un cours à faire à Fribourg, on serait obligé maintenant de faire une introduction biblique. Vous voyez, eh bien, je ne crois pas beaucoup, je crois qu'il faut tout simplement se rappeler ce que je vous ai dit l'autre jour, et je crois que c'est important de se le rappeler, c'est qu'on pourrait faire une théologie biblique de la grâce. Nous le verrons en cours sur la théologie biblique, voir comment, à travers l'Écriture, se pose le problème de la grâce. Mais quand vous regardez le problème de la création, on ne parle pas de la grâce. On ne peut pas parler de la grâce. Dieu a créé l'homme et la femme. Les théologiens disent Adam et Ève, pour les appeler par leur nom, Adam et Ève ont été créés dans un état de justice originelle. Et nous verrons le problème avec saint Thomas. Adam et Ève ont été créés dans un état de justice originelle, c'est-à-dire qu'Adam et Ève ont pas été créés uniquement comme la nature humaine, mais avec la grâce, mais une grâce de justice originelle. Cette grâce de justice originelle est tombée avec le péché. Qu'est-ce qui dit ça? C'est pas l'Écriture directement. C'est au fond la tradition théologique des pères de l'Église et des théologiens qui ont essayé de comprendre les états différents de l'homme. Mais c'est important de voir comment ça se pose bibliquement. Pas du tout de la même façon que nous allons voir maintenant. C'est tout à fait autre chose. Et il faut s'habituer. Il faut s'habituer, je crois, à comprendre que le mystère nous dépasse complètement. Et que parce que le mystère nous dépasse complètement, nous avons vis-à-vis du mystère des approches différentes. Alors, on a l'approche de la théologie biblique qui essaie de regarder les états différents. L'homme a été créé dans un état originaire de perfection dans l'Éden. Et on a qualifié cet état d'un état de grâce, de justice originelle. Puis on n'a plus de péché. On n'a plus que le péché chassé du paradis terrestre. Vous voyez, chassé du paradis terrestre, c'est très symbolique. Hein? C'est-à-dire chassé de cet état d'origine. De cet état de justice originelle, dans cet état d'harmonie parfaite, où les exigences de la grâce et les exigences de la nature allaient de pair. C'est magnifique, ça. Chaque fois que vous aviez désir d'un bonbon, c'était la grâce. Vous voyez, chaque fois, il y avait les désirs, les appétits naturels, les appétits de la grâce allaient de pair. Ce que les Grecs avaient comme désir, le kalos kagaton, que le point de vue du beau et que le point de vue du bien soient toujours en harmonie. Ce serait merveilleux, ça. On a en nous, il ne faut pas l'oublier, et ça c'est très important de se rappeler, je le rappellerai au cours de théologie biblique, on a en nous une nostalgie du paradis terrestre. C'est ce que les psychanalystes oublient. Parce que c'est la nostalgie la plus profonde. On a en nous cette nostalgie du paradis terrestre. Nous avons été créés notre nature humaine. Notre nature humaine a été créée dans un état d'harmonie, dans un état de justice originelle. Donc il y a quelque chose en nous qui appelle le paradis. C'est très très important, mais ce n'est pas seulement les oignons d'Égypte, hein, c'est les êtres. C'est la nostalgie la plus profonde. Les oignons d'Égypte, c'est un peu superficiel, n'est-ce pas? Mais l'Éden, ah ça c'est radical. Et qu'est-ce que c'est l'Éden? C'est ce paradis dans lequel Dieu nous a mis. Initialement, et nous avons un désir de redécouvrir l'Éden. On a toujours un désir d'un couvent parfait. idéal. Chacun de sa manière. Chacun de notre rythme. Nous avons toujours ce désir-là. Ce qui fait qu'il nous vit. Nous avons toujours le désir. C'est comme les gens qui se marient ont toujours le désir d'un foyer idéal. Je me souviens, c'était toujours ça dans la jeunesse. Notre grand-père nous disait toujours ça. Quelqu'un qui déçoit le pontificat. C'est la présenter de ce temps-là. Vous voyez le zèle parfait des gens qui se consacraient à les défendre souvent la critique. Et alors il y avait parmi ces hommes un particulièrement bien et qui n'était pas marié. On lui demandait, mais qu'est-ce que c'est? J'attends Miss Idéal. Oui, j'attends Miss Idéal. Bien bonjour, il s'est marié. Alors on lui a demandé s'il avait rencontré Miss Idéal. Alors je me souviens encore de ma jeunesse, elle m'a arrêté de voir mon Miss Idéal. C'est très significatif. On a une nostalgie du kalos kagagaton, du beau et du bien parfaitement tuni. On a une nostalgie des mêmes. Ça, c'est la chose principale. Mais Saint Thomas n'en parle pas. Il n'a pas en parlé. Parce qu'il fait une théologie scientifique. Et si je fais une théologie biblique, je vais tout de suite ça en lumière. Parce que c'est très très important, chasser du paradis de la Bologne, on est tous des errants, on a oublié, on a la première demeure, on l'a quittée, on est en dehors, chassé du paradis de la Bologne. Puis alors on voit tous les péchés successifs. C'est important de voir tous les péchés successifs pour comprendre le mystère de la grâce. Parce que la grâce qui nous a été donnée par le Christ n'est pas seulement une grâce qui surélève la nature, mais une grâce qui guérit. C'est une grâce qui guérit. Alors, pour comprendre justement comment cette grâce nous guérit, il faut voir les blessures. Alors, quand on fait une théologie biblique de la grâce, on voit toutes les blessures. Et on voit comment la grâce va commencer, et ça c'est très net, historiquement. C'est avec Abraham. Et c'est la foi. Abraham a cru. Il a été justifié. Grand problème, qui est là aussi très intéressant dans l'histoire de l'Église, de voir comment, bibliquement, c'est par la foi que j'entre dans le mystère de la grâce. Ce qui est normal. On ne peut pas entrer dans le mystère de la grâce, on ne pourrait pas parler du mystère de la grâce, on n'est pas la foi. Alors, on voit bibliquement, vous voyez, alors c'est pour ça que, selon le rythme de la théologie biblique, on suit le devenir, vous voyez le paradis terrestre, vous voyez les chutes, les blessures. Les quatre grandes blessures. Puis vous voyez Dieu qui reprend. Et qui reprend par la foi. Et qui reprend Abraham par la foi. Mais Abraham est justifié. Donc si Abraham est justifié, c'est pas seulement la foi, c'est la foi liée à la grâce. Il devient un ami de Dieu. Dieu se dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc si Dieu se dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Abraham est l'ami. La grâce nous met dans un état d'amitié avec Dieu. Et on est purifié du péché, on est guéri des conséquences du péché, du moins partiellement. On est guéri partiellement des conséquences du péché, parce que les blessures resteront jusqu'au bout. Et on est enfant de Dieu. Alors vous trouvez à travers tout l'Ancien Testament, je vais le rapidement, tout l'Ancien Testament, ces alliances. La grâce apparaît sous le point de vue de l'alliance. En théologie biblique, si on veut comprendre le mystère de la grâce, c'est le mystère de l'alliance. Parce que dès que le péché intervient, il n'y a plus l'alliance. Regardez immédiatement la réaction d'Adam et Ève après leur faute. Ils entendent le pas de Dieu dans le jardin. Et ils ont peur. Le péché fait que nous avons peur de Dieu. C'est juste à l'air de l'alliance. On est dans un état d'inimitié à l'égard de Dieu, d'opposition vis-à-vis de Dieu. Et donc il y a une peur. Ça se traduit de cette manière-là. Et c'est Dieu qui va reprendre. Alors la grosse question, vous voyez, c'est une des grandes questions. On avait élaboré, touché la dernière fois, la reprendition par une théologie biblique. La grande question, c'est de savoir jusqu'où le péché blesse l'homme. Là où Luther et l'Église catholique ont eu des positions différentes. Et c'est intéressant de bien voir que C'est vrai, c'est le péché. C'est tout de suite la position qui se pose. Chassé du paradis terrestre, et dans un état de crainte avec Dieu, le péché a blessé l'homme. C'est bien évident que le péché a blessé l'homme. Jusqu'où va cette blessure? Il faut au moins se poser la question quand vous lisez l'Écriture. Hein. Là, je vous donne un petit chaîne de recherche. Parce que c'est intéressant, c'est faut le faire soi-même. Hein. Cette petite théologie biblique par rapport à la grâce, c'est très intéressant de voir jusqu'où l'homme a-t-il été blessé. Et c'est vrai, quand on regarde attentivement les 11 premiers chapitres de la Genèse, je dirais, je vois là les grandes fêlures que le péché a mis dans l'homme, les grandes blessures que le péché a mis dans l'homme. Et j'ai toute une théologie du péché. Vous voyez que, bibliquement, on a une théologie du péché avant la théologie de la grâce. C'est aussi intéressant de voir ça. Je crois qu'on ne peut pas comprendre parfaitement le mystère de la grâce si on ne voit pas ce que c'est que la rupture par rapport au péché. Et alors, vous voyez, la grâce donnée à partir d'Abraham, la foi, qui est une alliance. Tout de suite, ça se traduit tout de suite dans une alliance religieuse, ça se traduit dans un sacrifice. Et à travers un sacrifice, Abraham montre son lien avec Dieu. Et cette alliance se fait dans la fécondité. Donc la première chose que Dieu reprend, c'est le cœur de l'homme. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est la première chose que Dieu reprend. C'est le cœur de l'homme. Dieu convertit le cœur de l'homme en lui redonnant une possibilité d'aimer Dieu. Et après, d'aimer le prochain. On voit très bien qu'aimer Dieu ne corrige pas tout de suite Abraham par rapport à Sarah. On va dire que lui, immédiatement, il va aimer Sarah d'un amour extraordinaire. Non, pas du tout. Et pourtant, il aime Dieu. Il est l'allié de Dieu et fait un petit mensonge par rapport à Sarah. Pour sauver sa peau avant Sarah. Vous savez bien, en Égypte, hein, cette petite histoire qu'on verra en théologie biblique, qui est très intéressante, et qui nous montre tout de suite que si Dieu guérit notre cœur par rapport à lui, il ne guérit pas tout de suite notre cœur par rapport au prochain. C'est extraordinaire, ça. Autrement dit, l'amour à l'égard de Dieu est avant, et c'est cet amour à l'égard de Dieu qui progressivement nous apprend à aimer le prochain. Mais ça met du temps. Et on peut dire que toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est de nous apprendre à aimer le prochain. C'est de faire que la grâce s'enracine suffisamment pour qu'on arrive à aimer le prochain. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a un amour de Dieu. C'est bien évident. Il y a un amour de Dieu. Il y a un amour de Dieu lié à l'adoration. Quand vous regardez l'histoire d'Abraham, vous voyez que c'est l'histoire d'un homme religieux. Et vous voyez que cette alliance avec Dieu est d'abord une alliance de fécondité. C'est dans la fécondité. Et cette alliance va se reprendre par trois fois. Abraham, Isaac, Jacob. Par trois fois, cette alliance se reprend. Pour nous faire comprendre le caractère trinitaire de cette alliance. Cet amour nous lie. C'est pas dit explicitement, mais nous pouvons, nous, puisque nous savons le terme. Hein. Alors, nous pouvons regarder l'Ancien Testament dans la lumière du Nouveau. C'est pas exégétique, mais c'est théologique biblique. La différence du regard de l'exégèse et de la théologie biblique. La théologie biblique regarde toute l'Écriture comme un seul livre. Parce qu'il y a un auteur principal qui est l'Esprit Saint. Alors, je regarde toute l'Écriture comme un seul livre. Et c'est pour ça que je peux me servir de l'Évangile de Saint Jean pour comprendre la Genèse. Je ne pourrais pas le faire si elle n'est pas un auteur principal. Exégétiquement, c'est faux. Théologiquement, c'est vrai. C'est intéressant de voir les jugements différents de l'un à l'autre. Hein. Et c'est très important qu'on s'habitue à ça. Vous s'habituez à avoir un regard de théologien sur l'Écriture. Puis l'exégèse, on comprend les deux. Bon, alors, nous voyons que Dieu reprend une répétition. Quand Dieu fait des reprises comme ça, c'est pour nous faire comprendre que la grâce s'enracine lentement en nous. Dieu respecte notre conditionnement de pécheur. Et c'est vrai, Dieu respecte notre conditionnement de pécheur. De temps en temps, on a envie que Dieu nous secoue un peu plus et que le pécheur soit. Et pas du tout. Parce que le pécheur nous met dans le temps. On est plus dans le temps comme pécheur que comme homme. C'est aussi ça très mystérieux. Le péché nous enracine dans le temps. Le péché nous matérialise et fait de nous des êtres beaucoup plus temporels. La temporalité joue un rôle plus important chez le pécheur que chez le saint. Et ça, l'Écriture nous montre. Hein, ça fait partie justement de ce regard de théologie biblique. Je vois ensuite que Dieu va faire l'alliance avec le législateur, Moïse. C'est l'alliance avec l'intelligence. Puis l'alliance avec les rois, c'est la violence avec la puissance, avec l'autorité, plus exactement. C'est quand même très curieux de voir comment la grâce progressivement s'empare du cœur de l'homme, de son intelligence, de son autorité. Et si vous êtes attentif, vous voyez que la grâce réussit mieux du côté du cœur que du côté de l'intelligence et que du côté de l'autorité. Ça, c'est visible, c'est montré en grosses lettres dans l'écriture. Hein, et c'est important si on veut comprendre le mystère de la grâce, parce que c'est ça que nous essayons de comprendre. Hein. C'est le mystère de la grâce. Vous voyez que lorsqu'il s'agit des patriarches, ils sont tous enterrés ensemble et très bien. C'est vrai, au moins l'union se fait dans la mort. Ça, c'est déjà quelque chose. C'est ça. Alors on les voit tous. Et ceux qui ont été là-bas à l'Hébron, ça, c'est impressionnant d'aller prier auprès de la tombe d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est quand même très impressionnant. Et puis on voit Rebecca à côté. C'est encore plus impressionnant. Et puis on voit ça aussi. C'est très impressionnant. Ils sont tous. Le signe symbolique hein, d'être enterré, ils terminent bien leur vie. Tandis que quand vous regardez Moïse, vous voyez que Moïse n'entre pas dans la terre promise. C'est l'alliance avec l'intelligence. Comme c'est difficile de sanctifier notre intelligence. C'est pas à cause de ça qu'il faut devenir paresseux. Hein. Mais c'est justement la paresse, c'est justement ce qui nous empêche de sanctifier notre intelligence. Comme c'est difficile de sanctifier notre intelligence, nous voyons que Moïse n'entre pas dans la terre promise, ce fameux texte que nous récitons souvent, n'est-ce pas, c'est à Mériba, l'épreuve de Mériba. C'est la grâce qui n'arrive pas à dépasser la difficulté de l'orgueil intellectuel. C'est important pour nous, parce que nous voulons sanctifier notre intelligence, hein, et donc il faut comprendre. Et puis alors, l'autorité, c'est encore plus difficile. Les rois deviennent fous. Ils deviennent orgueilleux. C'est la puissance qui l'emporte sur l'autorité. Et la puissance ne peut pas être transformée par la grâce. Vous voyez, je vous donne ça pour que vous compreniez la manière dont on pourrait regarder le mystère de la grâce à travers l'Écriture. C'est très beau, c'est très grand. Toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de l'alliance. De cette triple alliance. L'alliance avec les pères, l'alliance avec le législateur, l'alliance avec les rois. Et parce que c'est très difficile de sanctifier l'intelligence, Dieu suscite les prophètes. Si l'intelligence était entièrement transformée par la grâce, on n'aurait pas besoin de prophètes. Les prophètes, c'est pour que l'alliance avec l'intelligence puisse se faire de Samuel. Et tous les prophètes sont là pour permettre au peuple d'Israël de recevoir la doctrine d'être enseigné. C'est la sanctification d'intelligence. Les prophètes sont ça pour suppléer au manque de sanctification d'intelligence. Et je crois que c'est très vrai, ça. Si on regarde dans l'Écriture, on voit qu'il y a quelque chose d'important à faire. Et par rapport au roi, c'est encore les prophètes, si vous voulez. Mais les prophètes ne peuvent pas grand-chose. Et c'est vrai qu'on voit la division du royaume du Nord et du Sud à partir de Salomon, parce que la grâce n'arrive pas à faire l'unité plénière. Dans l'Ancien Testament, la grâce reste dans un état embryonnaire. Prologue de Saint Jean. Alors c'est le prologue de Saint Jean qui va nous aider à comprendre ça. Parce que le prologue de Saint Jean donne ça d'une façon très explicite. Il nous montre bien que dans l'Ancien Testament, il y a la grâce, mais que l'Ancien Testament n'aboutit pas. L'Ancien Testament n'aboutit pas. Si l'Ancien Testament aboutissait, si l'Ancienne Alliance aboutissait, on n'aurait pas besoin des nouvelles. Et puis trop zéro. C'est parce que l'Ancienne Alliance est imparfaite qu'on a besoin de cette alliance parfaite dans le cœur de Jésus. Alors c'est l'alliance sacerdotale. Et c'est très curieux. Dans l'Ancien Testament, vous n'avez pas l'alliance sacerdotale. En premier lieu. Ce qui caractérise la nouvelle alliance, c'est que c'est une alliance sacerdotale, c'est l'alliance dans le cœur du Christ, l'alliance dans le cœur du Fils bien-aimé, qui est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Vous avez donc dans l'Ancien Testament l'alliance avec les pères, l'alliance avec le législateur, et l'alliance sacerdotale sera en dépendance du législateur. Ce n'est pas une alliance propre. Et vous avez l'alliance royale. L'alliance par mode éphémère et passager, avec les prophètes. Cette alliance avec les prophètes, c'est quelque chose de très particulier. C'est pas une alliance constructive, si j'ose dire. Ce sont les coups de fouet du Saint-Esprit pour rappeler qu'il y a des choses qui ne vont pas. Les prophètes ne sont pas du tout des hommes d'institution. Bon, c'est très bien. Il y a souvent une espèce d'opposition. Tandis que la grâce, elle veut réaliser quelque chose qui soit le peuple de Dieu. Les prophètes sont là pour rappeler avant tout les exigences de la grâce. Mais ce sont des alliances donc passagères. Qu'est-ce qui caractérise la nouvelle alliance? C'est que c'est une alliance qui va tout prendre. Le Verbe est devenu chair. C'est pas seulement l'alliance avec le cœur, c'est pas seulement l'alliance avec l'intelligence, c'est pas seulement l'alliance avec l'autorité. C'est une alliance avec l'homme tout entier. C'est ça la grâce chrétienne. La grâce chrétienne est une grâce plénière. Et c'est pour ça que Saint Jean oppose la grâce qui nous est donnée à travers la loi, qui nous est donnée à travers les prophètes, et la grâce qui nous est donnée dans le Christ, qui est une grâce plénière. C'est cette grâce-là que nous allons regarder. Vous comprenez bien, nous n'allons pas faire un traité de la grâce de l'Ancien Testament. Mais c'est intéressant de voir comment progressivement Dieu sanctifie notre être. Alors la grâce, l'alliance avec le Christ, est une alliance sacerdotale. Notre grâce est une grâce sacerdotale. Vatican II nous demande d'être très attentifs à ce problème-là. Et c'est le seul concile qui dit ça. C'est pour ça que c'est important pour nous. Parce qu'il faut aller de l'évangile de Saint Jean à Vatican II. Vous voyez bien les grandes étapes. Il faudrait regarder le mystère de la grâce à travers toute la tradition de l'Église, ce que je vous avais dit la dernière fois. Et la dernière fois, je vous ai montré les difficultés qu'il y avait dans le traité de la grâce. Vous n'avez qu'à intégrer ce que je vous ai dit la dernière fois dans ce fait de regarder la grâce à partir de Saint Jean jusqu'à Vatican II. Il y aurait tout un traité, c'est bien évident, là encore nous le verrons en théologie mystique, voir le mystère de la grâce à travers l'évangile de Saint Jean, le mystère de la grâce à travers l'Apocalypse, le mystère de la grâce à travers la première épître. Qu'est-ce qui caractérise cette grâce? Elle est sacerdotale et elle est une grâce qui nous montre que notre cœur est sanctifié par la grâce de manière telle que l'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard du prochain ne font qu'un. C'est ça qui caractérise la grâce chrétienne. Et c'est ça qui caractérise la plénitude de la grâce. C'est que nous retrouvons là quelque chose de semblable au mystère de la Très Sainte Trinité. Dans la Très Sainte Trinité, il y a ce fait qu'il y a ce mystère de fécondité qui unit le Père et le Fils. Eh bien, ce mystère de fécondité qui unit le Père et le Fils, vous le retrouvez à l'intérieur même du mystère de la grâce, qui fait que aimer Dieu et aimer le prochain, c'est le même amour. C'est donc la même grâce qui nous unit à Dieu et qui nous unit au prochain. Et c'est là où, en définitive, on devra découvrir ce qu'il y a de tout à fait particulier à la grâce chrétienne. Vous voyez, on le découvre par le fruit. C'est normal. C'est à travers le fruit. Quand vous regardez le chapitre 15 dans l'évangile de Saint Jean, vous voyez que tout le mystère de l'Église n'a pas d'autre signification que d'être le lieu où la charité fraternelle pourra s'épanouir pleinement et totalement. Et que c'est par la charité fraternelle que nous glorifions Dieu. Alors là, nous retrouvons quelque chose de très très fondamental qui nous aide à comprendre le mystère de la grâce chrétienne. Parce que c'est cette grâce chrétienne que nous allons essayer de comprendre, hein, c'est bien évident. Vous voyez, en très gros, hein, théologie biblique de la grâce, théologie des alliances, qui aboutit à l'alliance dans le cœur de Jésus, dans le sacerdoce du Christ. Et dans le sacerdoce du Christ, l'amour à l'égard du Père et l'amour à l'égard du prochain ne font qu'un. Et c'est à cause de ça qu'il y a l'Immaculée Conception. Si on veut aller jusqu'au bout, c'est pour ça. C'est pour qu'il puisse y avoir cette unité parfaite entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain.
Jésus dans son cœur aimait le Père et aimait Marie du même amour. Elle était l'Immaculée. Et c'est pas parce que Dieu le, parce que Jésus aime du même amour le Père et Marie que Marie est immaculée. Ça c'est la grâce chrétienne. Et Marie aime du même amour Jésus et Jean. Et Marie aime du même amour Jésus et chacun d'entre nous. Et ceci, c'est le propre de la grâce chrétienne. Vous ne pourriez pas dire ça de l'Ancien Testament. Vous voyez dans l'Ancien Testament des préfigurations, des dispositions à cela. Mais ce n'est pas explicite. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, c'est explicite. Donc, vous voyez, c'est une... la théologie biblique vous pose le problème. Hein? Comment se fait-il qu'il y a cette unité? Comment comprendre cette unité? Comment la grâce va-t-elle nous aider à comprendre? Le traité de la grâce va nous aider à comprendre cette unité profonde entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est quand même le fruit direct de la grâce. Alors vous voyez, hein, si je suis attentif à cette théologie biblique, simplement en soulignant quelques aspects, je vois que c'est d'abord par la foi que je fais naître dans la grâce. Et en définitive, c'est par l'amour d'amitié, l'amour, la charité fraternelle. L'amour d'amitié à l'égard du Père et à l'égard de mes frères, que je découvre le mystère de la grâce. Vous voyez, la foi et la charité. C'est très vrai que l'Ancien Testament... Et c'est ça, c'est saint Augustin qui nous dit ça. L'Ancien Testament, c'est le testament de la foi. Et la Nouvelle Alliance, c'est l'alliance de l'amour. La grâce est présente des deux côtés. C'est la même grâce, substantiellement, c'est la même grâce. Mais ici, cette grâce, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, elle n'est pas parfaite. Ici, elle est une plénitude. C'est une plénitude de grâce. Alors cette plénitude de grâce s'épanouit dans la charité. Le fruit de la plénitude de grâce, c'est l'amour. C'est la charité fraternelle. Et la charité fraternelle donne uniquement. Et alors vous avez ici, dans la grâce de l'Ancien Testament, les diverses alliances. Et ça c'est très important. Faites très attentif à ces diverses alliances. Les diverses alliances qui est la reprise de l'image de Dieu en nous. Et dans la nouvelle alliance, vous avez... l'alliance du Fils bien-aimé. C'est l'alliance du Fils bien-aimé, l'agapétos. C'est l'alliance avec le bien-aimé. Et cette alliance avec le bien-aimé fait que Jésus est prêtre, et donc la grâce est une grâce sacerdotale. Alors vous voyez comment la grâce sacerdotale est liée à la charité fraternelle. C'est très important pour comprendre comment la grâce évangélique est apostolique. Elle est liée à la charité fraternelle. Alors que la grâce de l'Ancien Testament est beaucoup moins immédiatement liée à la charité fraternelle. C'est un petit schéma que je vous donne là, très rapide, que je crois juste, de la théologie biblique. Si vous regardez maintenant, alors c'est intéressant, à travers toute l'histoire de l'Église, ce que je vous disais la dernière fois, j'aboutis à Vatican II. Que fait Vatican II? Vatican II met en lumière très particulière le point de vue sacerdotal de la grâce et le point de vue de l'amour d'amitié. Je crois que c'est ça le fruit le plus parfait de Vatican II. Montre Marie, modèle de notre vie divine, parce que c'est vraiment une modèle, c'est ça. Ce que donne le Concile Vatican II, et nous fait poser le problème de notre grâce sacerdotale et l'amour d'amitié. Et à partir de là, toute une vision du mystère du peuple de Dieu. Donc une vision de l'Église. Vous voyez que c'est encore le mystère de la grâce qui aboutit. Et comment Vatican II est proche de l'évangile de Saint Jean. Sans l'expliciter, c'est nous qui devons l'expliciter. Sans l'expliciter, parce que les pères du Concile ne l'ont pas tellement explicité, et les théologiens du Concile non plus. Mais c'est quand même assez étonnant de voir que nous retrouvons, et c'est en sens là que je crois qu'on aboutit à quelque chose d'assez ultime, vous voyez. Parce que nous retrouvons ce qui est ultime dans la révélation, l'évangile de Saint Jean,
nous retrouvons dans Vatican II. Si on regarde attentivement, si on
est attentif à cela. Bon, ça c'est le regard de la grâce
en théologie biblique, en théologie d'Église. Vous comprenez bien les deux grands aspects. La théologie biblique s'achève avec l'évangile de Saint Jean, et la théologie d'Église s'achève avec Vatican II. Pour nous, la situation dans laquelle. Et il faut regarder le mystère de la grâce à travers la tradition d'Église. Avec toutes les luttes qui existent, toutes les difficultés qu'il y a à maintenir ce mystère de la grâce. Donc, là, nous avons déjà deux visions de la grâce. Maintenant, nous ajoutons une troisième vision de la grâce. La vision de la grâce telle que nous la donne la théologie scientifique. C'est ça que je voudrais, que vous aboutiez à ne pas avoir une vision univoque de la théologie. Parce que quand on a une vision univoque de la théologie, on devient primaire. Et la chose la plus terrible, c'est d'être primaire à l'égard de la sagesse. Ça, c'est grossier par rapport aux Saint-Esprit. Bon, parce qu'être primaire à l'égard d'avoir un esprit primaire à l'égard de la sagesse, c'est effrayant. Être primaire à l'égard de la grammaire, c'est embêtant, mais être primaire à l'égard de la sagesse, c'est très ennuyeux. Vous savez, il y a des historiens primaires. Hein? Alors, pour les historiens qui sont vraiment des historiens, c'est agaçant. C'est agaçant l'esprit primaire. C'est l'esprit univoque, l'esprit primaire. Hein? C'est regarder tout sur la même lumière, qu'une seule façon, il y a cette façon-là de regarder les choses. Alors, vous devez toujours vous habituer à avoir vis-à-vis de la théologie, quand vous traitez un mystère, de comprendre que ce mystère, nous le traitons en théologie biblique, nous le traitons en théologie d'Église, nous le traitons en théologie mystique, nous le traitons en théologie scientifique. Alors maintenant, le regard de la théologie scientifique. Je vais situer d'abord, parce que je crois que c'est la première chose à faire, situer où dans saint Thomas se trouve le traité de la grâce. Encore, je vais vite, parce que on ne peut pas entrer dans tout ça. Ce serait toute l'année si on voulait faire la théologie biblique de la grâce. Mais j'aime mieux séparer les grandes visions que de faire des petits morceaux. Voilà ce que l'Écriture nous dit. Il y a une vision de la théologie biblique de la grâce qui est très très belle. Alors, vous connaissez la grande division de la théologie scientifique de saint Thomas. Je la donne pour ceux qui ne la connaissent pas. Pour les autres, ils n'ont qu'à réfléchir pendant ce temps-là. Enfin, la prima pars, ce qu'on appelle la prima pars, c'est-à-dire la première partie, hein, bon, c'est le traité de Dieu. On a beaucoup reproché à saint Thomas de commencer par le traité de Dieu. Parce que saint Thomas est intelligent, c'est pour ça qu'il commence par le traité de Dieu. On commence par le traité de Dieu. Et vous comprenez très bien pourquoi. Il s'agit d'une théologie scientifique. On commence donc par ce qui, pour nous, est le plus intelligible. Alors on regarde Dieu dans son unité. Puis on regarde la Trinité. Je ne peux pas faire la théologie de la Trinité si je ne regarde pas l'unité de Dieu. Donc c'est le mystère de la fécondité en Dieu. Puis, le traité de la création, c'est la fécondité ad extra. Il y a une fécondité intime, immanente, ad intra, puis il y a la fécondité ad extra. Puis alors, nous avons le traité de la création. Et le traité de la création, évidemment, c'est le traité des anges. Et le traité de Dieu. Prima pars. Vous voyez bien. La seconda, la seconde partie. La seconde partie, elle se divise en deux parties, parce qu'elle est trop longue. Saint Thomas ne veut pas être trop longue, elle se divise en deux parties. Alors, il y a la prima secundae et la seconda secundae. Alors, il y a la première partie de la seconde partie et la seconde partie de la seconde partie. N'est-ce pas? C'est facile à comprendre. Alors, c'est comme ça qu'on dit. Prima secundae. Ou seconda secundae. Alors, dans la prima secundae. Je vous ai exprès apporté le petit prologue Vous êtes très attentif au prologue de saint Thomas, parce que saint Thomas, dans les prologues, annonce et montre ce qu'il doit y avoir. Donc, dans la prima secundae, saint Thomas va nous donner le petit prologue qui va nous faire entrer dans ce que représente l'ordre de la première partie de la seconde partie. L'homme étant fait à l'image de Dieu. Oui, ici on parle de Dieu, ici on parle de l'image. Très beau, parce que ça nous montre bien l'ordre du théologien. Le théologien ne regarde l'homme que dans la lumière de Dieu. Il ne peut pas la regarder autrement. Autrement, ce n'est pas un regard théologique, c'est un regard philosophique. Donc il regarde l'homme dans la lumière de Dieu. Et il regarde donc comme l'image. L'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, vous voyez, premier regard, tout à partir de Dieu. Second regard, encore à partir de Dieu, mais on va regarder ce que c'est que l'image de Dieu. Alors, on ne regarde plus dans la seconda pars, on ne regarde plus la création, l'homme en tant que créature, en tant que effet de la création, mais on va regarder l'homme en tant qu'il est capable de retourner vers Dieu. C'est le retour de la créature vers Dieu. Quand je regarde la créature comme un effet, je la regarde directement dans la lumière du Créateur. Tandis qu'au contraire, ici, nous allons regarder comment l'image est capable de retourner vers Dieu. C'est le retour vers Dieu. L'homme étant fait à l'image de Dieu, et par là, il faut entendre, selon saint Jean Damascène, qu'il est doué d'intelligence, de libre arbitre et d'un pouvoir d'action qui lui appartient en propre. Pour ceux qui étudient le libre arbitre, vous voyez qu'il est intéressant de voir que tout de suite saint Thomas ici parle du libre arbitre, n'est-ce pas ? Et que le libre arbitre fait partie essentielle des dimensions de l'image de Dieu. Pas quelque chose de secondaire. Voilà les trois dimensions de l'image de Dieu : intelligence, libre arbitre, pouvoir d'action. Trois dimensions de l'image. Donc le point de vue par image est exprimé successivement ces trois aspects-là. Et ceci, c'est selon saint Jean Damascène. Nous devons, après avoir traité de l'exemplaire qui est Dieu, donc le modèle, c'est vrai, le modèle suprême, c'est Dieu. Nous avons regardé Dieu comme exemplaire. Après avoir regardé l'exemplaire qui est Dieu et des choses émanées de sa puissance conformément à sa volonté, abordons maintenant ce qui concerne son image, l'homme, selon que lui aussi, l'homme, est principe de ses propres actes. Donc ici, on regarde l'homme comme un effet du Créateur. Ici, on regarde l'homme comme source. Principe. De ses activités. C'est intéressant de voir les deux regards successifs. C'est très intéressant de voir ces deux regards. Ce n'est pas du tout le même regard de la prima et de la seconda. Et c'est pour ça que quand vous prenez un texte de la prima et vous collez à la seconda, vous voyez toutes les erreurs que vous pouvez faire. Comprenez bien qu'il y a des perspectives différentes. Hein. C'est des perspectives différentes. Là, vous regardez l'homme comme créature, comme un effet. Là, vous regardez l'homme comme source, donc dans son autonomie, nous dirions aujourd'hui. Nous regardons l'homme dans son autonomie. Nous regardons l'homme en tant qu'il est capable d'opter pour Dieu. Nous regardons l'homme en tant qu'il est capable de s'orienter vers Dieu. L'homme, selon que lui aussi, l'homme, est le principe de ses propres actes, grâce à l'arbitre et à la puissance qu'il exerce sur ses œuvres. Il a une domination sur ses actes, c'est le propre justement de l'image de Dieu. Il est source, il a une domination sur ses propres activités, il peut les orienter comme il le veut. Donc, une fois qu'on voit la perspective différente de la seconda pars, hein, en réalité c'est la seconda pars, hein, regardez l'image pour son retour vis-à-vis de Dieu. Ce qui se présente d'abord à considérer, c'est la fin dernière de la vie humaine. Si on veut regarder l'homme dans cette activité, il faut tout de suite regarder la fin. La fin, c'est la béatitude. Les activités de l'homme ne sont compréhensibles que par leur finalité. Quand il n'y a plus le sens de la finalité,
on ne sait plus ce qu'on fait. Dans votre vie, c'est comme ça.
Dès que la finalité n'est pas en acte, vous n'aimez plus ce que vous faites. Vous êtes un être errant. Quand la finalité est en acte, ah, c'est autre chose. Tout s'organise. Tout s'ordonne. Alors, la finalité, c'est la béatitude. Ce qui se présente d'abord à considérer, c'est la fin dernière de la vie humaine. On devra se demander ensuite ce par quoi l'homme parvient à sa fin. Après avoir regardé la béatitude, on regarde les moyens. C'est très simple comme ordre. Hein, il y a la fin et les moyens. Mais les moyens n'ont d'intérêt que quand on sait ce que c'est que la fin. On devra se demander ensuite ce par quoi l'homme provient à sa fin et s'en détourne. Ah, il y a une possibilité à la fois d'arriver vers la fin et s'en détourner. Car c'est d'après la fin qu'on doit se faire une idée de ce qui s'y rapporte. Et comme tout le monde admet que la fin de l'homme est la béatitude, nous avons à nous occuper d'abord de la fin dernière en général, c'est-à-dire de la béatitude. C'est pour ça que la Secunda Pars commence par le traité de la béatitude. Tout de suite. Puis après, nous regardons les moyens. Ah, les moyens, c'est quoi? Alors, nous précisons successivement les moyens. Les moyens, ils sont multiples. Les moyens, c'est d'abord la volonté. L'homme est un être volontaire. Parce que l'homme est un être volontaire, il est capable de retourner volontairement vers Dieu. C'est très vrai que c'est la fin qui met en éveil la volonté. Parce que la fin, c'est mon bien, c'est la béatitude, c'est ça qui m'éveille. L'homme, comme image de Dieu, ne retourne vers Dieu que d'une manière volontaire. On va étudier à partir de là l'acte humain. C'est l'analyse des actes humains. Un traité extrêmement intéressant dans un domaine, très original, qui est puisé dans Aristote. Toute l'éthique d'Aristote que saint Thomas assume dans cette traité des actes humains, mais saint Thomas pousse beaucoup l'analyse d'Aristote. Alors, dans cette traité des actes humains, saint Thomas montre les différents moments du volontaire. Notre volontaire s'exprime à des niveaux différents. Parallèlement au volontaire, saint Thomas va parler des passions. C'est normal, parce que le volontaire se réalise à travers les passions, il se réalise dans la lutte. De temps en temps, c'est les passions qui l'emportent sur le volontaire, et le volontaire est complètement inhibé par les passions. Et quand le volontaire est complètement inhibé par les passions, je n'atteins plus ma béatitude. Seul le volontaire me met en relation directe avec la béatitude. Les passions sont là pour aider ou pour s'opposer. C'est très très beau comme vision, hein. Et c'est merveilleusement organisé, hein, ceux qui s'intéressent à la Secunda Pars, c'est ce qu'on appelle la théologie morale habituellement, la Secunda Pars. Hein. Là, on dira théologie dogmatique, théologie morale. Vous voyez que c'est faux, ça. Hein. Ce qu'on coupe l'un de l'autre, c'est pas ça du tout. C'est la théologie tout court, théologie scientifique tout court. Mais c'est l'image qui remonte vers sa source. C'est l'image qui remonte vers sa béatitude, vers Dieu. Et je le fais avec des paliers différents. Et donc, parmi les paliers, il y a les passions. Et c'est pour ça qu'il y a tout un grand traité des passions, ce qui est aussi très original de saint Thomas. Aucun théologien de son époque n'a donné ce traité des passions. Et ça, saint Thomas, là, donne un traité des passions pour nous faire comprendre comment, de fait, nous pouvons arriver. Puis, le traité des péchés. L'homme peut très bien ne pas vouloir atteindre. Alors, c'est intéressant de voir le péché. Le péché se situe donc, vous voyez, dans le retour vers la source, vers la béatitude. Le péché, c'est ce qui m'empêche d'atteindre ma béatitude. Et parce que le péché m'empêche, Dieu vient mon aide, la grâce. La grâce, c'est ce surcroît d'amour qui m'est donné pour être victorieux et atteindre ma béatitude. Donc vous voyez comment se situe le traité de la grâce. Ce traité de la grâce que nous allons voir se situe donc à l'intérieur de ce retour vers la source dans la béatitude. Et ça se situe du fait même que l'homme a besoin doublement de la grâce, hein, ce que nous allons voir. Il a besoin de la grâce parce que la béatitude vers laquelle nous tendons est une béatitude surnaturelle. Il a besoin de la grâce parce qu'il est capable de pécher.
Alors, il a besoin de la grâce pour se réconforter en face de Dieu. Là, donc, ça, c'est le grand traité, vous voyez, de la, c'est la, 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 tout ça est traité dans la prima secundae. Dans la seconda secundae, je vous le dis tout de suite, parce que c'est intéressant si nous sommes dedans, la seconda secundae, donc qui est encore dans le retour de l'image vers Dieu, on va regarder ce que nous acquérons par nous-mêmes comme moyen en vue de la béatitude. Ce que nous acquérons par nous-mêmes ou ce qui nous est donné d'une manière infuse. Ce sera le traité des vertus. La seconda, c'est la seconda secundae, la seconde partie donc de ce retour de l'image vers Dieu, c'est les vertus. Les vertus théologales. Les vertus théologales, ce sont des vertus infuses qui viennent directement de la grâce. Les émanations de la grâce en moi, c'est les vertus théologales. Les vertus théologales et les vertus dites infuses. Puis, on va regarder les vertus acquises. Et tout le traité de la seconda secundae, c'est regarder ces diverses vertus. Et après avoir vu les vertus, saint Thomas va traiter des états. Il y a diverses manières d'organiser sa vie. Un état de vie active, un état de vie contemplative, un état de vie mixte. Les trois états. Il y a diverses manières d'organiser sa vie en vue de la béatitude. Alors, on organise sa vie en actif, on organise sa vie en contemplatif, on organise sa vie pour la vie apostolique, la vie évangélique. Vous voyez comment la seconda secundae aboutit au traité des états pour nous faire comprendre comment, de fait, l'organisation des vertus est différente selon chacun. Alors, la tertia pars, je suis là pour vous le dire. La tertia pars, c'est le traité du Christ. Vous voyez, alors, c'est ça qui fait grincer certains. En disant, nous sommes des chrétiens, on devrait tout de suite commencer par le traité du Christ. Nous sommes en théologie scientifique. Puisque nous sommes en théologie scientifique, nous devons donc, avant de regarder le mystère du Christ, essayer de comprendre le mieux que nous pouvons, regarder, contempler le mystère de Dieu, contempler le mystère de l'homme. Et le mystère du Christ, c'est Dieu fait homme. Si je ne sais pas du tout ce que c'est que Dieu, et si je ne sais pas du tout ce que c'est que l'homme, je ne peux absolument pas parler du Christ. Vous voyez, la manière dont le traité du Christ arrive nécessairement en théologie scientifique, en troisième lieu. Tandis qu'en théologie biblique, le Fils n'apparaît pas non plus en premier lieu. Il apparaît après la grande attente. Mais en théologie mystique, le Fils apparaît immédiatement. Ça qui est intéressant à voir, des perspectives différentes. Et souvent, toutes les objections qu'on fait à la somme théologique de saint Thomas, c'est parce qu'on ne voit pas la perspective de saint Thomas. Alors on peut accepter ou pas accepter cette perspective, ça c'est différent. Si vous l'acceptez pas, très bien. Mais celui qui s'intéresse à la théologie scientifique, il voit bien qu'il ne peut pas prendre un autre ordre. Parce que je ne peux pas regarder le mystère du Christ si je n'ai pas d'abord regardé le mystère de Dieu, si je n'ai pas d'abord regardé le mystère de la Sainte Trinité. Je ne peux pas regarder le mystère du Christ si je n'ai pas compris ce que c'est que l'image de Dieu. C'est-à-dire le mystère de l'homme. Alors, une fois que j'ai regardé ça, je peux comprendre. Et c'est à l'intérieur du mystère du Christ que saint Thomas donnera le traité des sacrements. Et le traité des sacrements sera pour lui le traité de l'Église. Il n'y a pas un quatrième traité comme on ferait aujourd'hui, vous voyez, ce que faisait le cardinal Journet, quatrième traité, l'Église. Non. L'Église, pour saint Thomas, c'est le Christ. Beaucoup plus fort. C'est le Christ. Puisque nous sommes le corps du Christ. Oui. Alors ça, c'était simplement pour vous donner les trois visions. La quatrième, c'est la théologie mystique. La théologie mystique, c'est d'essayer de comprendre la grâce dans le Christ et en Marie. Et dans les saints. À titre exemplaire, à titre d'union, vous voyez. Donc c'est là, en théologie mystique, où nous touchons ce qu'il y a d'immédiatement concret pour nous.